Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1976 sous le titre anglais The Uses of Enchantment. Psychanalyse des contes de fées est un essai de psychologie et de critique littéraire où Bruno Bettelheim interprète les récits traditionnels à partir de la psychanalyse freudienne. Son objectif déclaré est de faire comprendre aux adultes, notamment aux parents et éducateurs, pourquoi les contes conservent une valeur particulière dans la vie psychique des enfants. Loin de les considérer comme de simples divertissements ou comme des histoires inutilement effrayantes. Il y voit des formes symboliques qui donnent une expression partageable au conflit intérieur. Le livre étudie des contes connus, dont les trois petits cochons Blanche-Neige, Cendrillon, Ansel et Gretel et la Belle au bois dormant. Bettelheim soutient que leurs personnages fortement contrastés, leurs épreuves et leurs fins réparatrices aident le jeune lecteur à imaginer des issues à la peur, à la rivalité, à la séparation et au désir de grandir. Cette thèse influente reste liée à un cadre théorique aujourd'hui discuté. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le conte comme langage symbolique des angoisses enfantines. La proposition centrale de Bettelheim est que le conte permet à un enfant de rencontrer des expériences difficiles sous une forme indirecte. La peur de perdre ses parents, la jalousie envers un frère ou une sœur, la colère dirigée vers une figure aimée, le sentiment de faiblesse ou la perspective de la mort peuvent être représentés par des sorcières, des forêts, des abandons et des adversaires. Cette mise en image ne vise pas à transmettre une leçon explicite. Elle donne plutôt au lecteur une scène imaginaire dans laquelle des sentiments contradictoires peuvent être reconnus sans être directement attribués à sa propre famille. Pour Bettelheim, la simplicité apparente des personnages répond à un besoin de clarification psychique. Le bon et le mauvais sont séparés, puis le héros doit affronter les conséquences de ses choix et de ses désirs. L'enfant peut ainsi s'identifier successivement à plusieurs positions sans devoir formuler une analyse de lui-même. La fin heureuse compte également, elle ne nie pas la souffrance traversée, mais affirme que les conflits et les épreuves peuvent conduire à une transformation. Le conte fonctionnerait donc moins comme une description réaliste du monde que comme une élaboration symbolique de réalités affectives complexes. Deuxièmement, du principe de plaisir au principe de réalité dans les trois petits cochons. Bettelheim utilise les trois petits cochons pour illustrer une idée freudienne importante, le développement suppose un passage progressif du principe de plaisir au principe de réalité. Les deux premiers cochons choisissent des constructions rapides et fragiles, qui symbolisent une recherche de satisfaction immédiate. Le troisième accepte au contraire un travail plus long et une contrainte présente afin de bâtir une maison capable de résister aux loups. L'intérêt de cette lecture ne réside pas seulement dans une morale sur la prudence ou le travail. Bettelheim y voit une dramatisation accessible du conflit entre désir immédiat et capacité à différer une gratification pour assurer sa sécurité et son autonomie. Le loup représente la menace qui révèle les limites de la toute-puissance infantile. La maison de briques ne promet pas que le monde deviendra sans danger, mais elle montre qu'une préparation active permet de faire face aux dangers. Bettelheim insiste aussi sur la différence entre raconter un conte dans sa forme cohérente et le simplifier au point de supprimer sa tension. Une version qui efface le danger ou la victoire du cochon prévoyant perdrait, selon lui, une part de sa force organisatrice pour le jeune auditeur. Troisièmement, les conflits familiaux et la nécessité de grandir. Une grande partie de psychanalyse des contes de fées porte sur les tensions familiales que les récits rendent visibles. Bettelheim analyse notamment Blanche-Neige à travers les conflits liés à la rivalité entre générations et aux enjeux oedipiens, tandis que plusieurs autres contes lui permettent de traiter la rivalité fraternelle, la dépendance et la séparation. Son point essentiel est que les sentiments hostiles ou ambivalents envers les proches ne sont pas absents de la vie enfantine parce qu'ils sont difficiles à admettre. Les contes leur donnent des figures externes et intensifiées marâtres, parents défaillants, frères rivaux ou enfants persécutés. Cette externalisation éviterait de réduire le parent réel à une image uniquement mauvaise et permettrait de préserver le lien affectif. Le jeune lecteur peut attribuer sa rage, sa peur ou son désir de revanche au personnage sans conclure que ses propres émotions le rendent mauvais. Bettelheim relie aussi les départs, les errances et les retrouvailles à un mouvement vers l'autonomie. Le héros ne devient pas adulte par obéissance passive, mais en affrontant une situation où ses ressources doivent se développer. Ces interprétations sont très marquées par la théorie psychanalytique classique et ne constituent pas des preuves universelles sur chaque enfant. Elles éclairent néanmoins la manière dont le livre conçoit le conte, un espace où la vie familiale peut être pensée dans toute son ambivalence. Quatrièmement, pourquoi Bettelheim oppose le conte de fées au mythe? Bettelheim distingue nettement le conte de fées du mythe, car il leur attribue des fonctions psychologiques différentes. Dans son schéma, le mythe met souvent en scène des figures exceptionnelles et un destin qui dépasse l'individu ordinaire. Il exprime davantage des exigences idéales ou morales associées dans le vocabulaire freudien au surmoi. Le conte, à l'inverse, suit généralement un personnage initialement modeste, vulnérable ou dévalorisé auquel un enfant peut plus facilement se comparer. Son parcours offre une possibilité de concilier les pulsions, les contraintes du monde et la construction du moi. Cette opposition sert à expliquer pourquoi Bettelheim juge les contes particulièrement adaptés à l'enfance. Il ne demande pas au lecteur de ressembler immédiatement à un héros parfait ni de se soumettre à une règle abstraite. Il montre une progression où l'individu traverse l'isolement, l'épreuve, l'erreur ou la peur avant de trouver une place plus stable. Le caractère merveilleux est alors essentiel. Non parce qu'il éloignerait de la réalité, mais parce qu'il rend imaginable une résolution que le réalisme quotidien ne peut encore formuler. La distinction est toutefois typologique, mythe et conte possèdent des traditions variées, et leurs frontières ne sont pas toujours aussi nettes que le modèle de Bettelheim le suggère. En dernier lieu, La Belle au bois dormant et les limites de la lecture psychanalytique, dans son analyse de La Belle au bois dormant. Bettelheim lit le sommeil de la princesse comme une période de retrait et de maturation plutôt que comme une simple passivité. La malédiction et la piqûre marquent le surgissement de règles, de limites corporelles et de transformations associées à la puberté. La longue dormance symboliserait une phase où la jeune fille se soustrait provisoirement aux pressions extérieures avant de pouvoir accéder à une relation adulte, représentée par le prince. Cette interprétation montre la méthode du livre, chaque détail narratif est traité comme porteur de significations psychiques possibles. Et le dénouement est rapporté à un processus de développement. Elle met également en évidence les limites de cette méthode. Les lectures de Bettelheim reposent souvent sur des associations sexuelles et familiales très affirmées, sans démonstration empirique permettant de les généraliser à tous les lecteurs ou à toutes les versions des récits. Les recherches contemporaines sur le développement, la littérature de jeunesse et les traditions orales invitent à prendre en compte le contexte historique, les pratiques de lecture et la diversité des réceptions. Lire Bettelheim avec profit suppose donc de distinguer la fécondité de ces questions symboliques de la prétention à établir une signification unique et universelle pour chaque conte. En conclusion, Psychanalyse des contes de fées intéressera surtout les lecteurs qui souhaitent réfléchir à la place des récits traditionnels dans le développement affectif parent, éducateur, étudiant en psychologie, en littérature ou en sciences de l'éducation, ainsi que médiateur du livre. Il peut aussi être utile à quiconque veut relire des contes connus autrement que comme des textes moralisateurs ou comme de simples vestiges du folklore. Son bénéfice intellectuel principal est de rendre visible la densité émotionnelle de formes narratives très brèves. Bettelheim montre comment la peur, la jalousie, le désir d'indépendance et la difficulté de grandir peuvent trouver une organisation dans des figures et des actions mémorables. Cette attention au rôle de la forme narrative distingue son essai de nombreux manuels de parentalité ou introductions générales à la psychanalyse. Au lieu de partir de catégories cliniques abstraites, il les confronte continuellement à des récits populaires largement partagés. Le livre se démarque aussi par son plaidoyer pour le merveilleux, il défend l'idée que le symbolique aide parfois davantage un enfant qu'une explication rationnelle prématurée. Il convient cependant de le lire avec discernement. Ces interprétations freudiennes, souvent assurées, ne font pas consensus et certaines ont été contestées pour leur caractère spéculatif ou réducteur. Sa valeur durable réside donc moins dans des clés définitives que dans une invitation exigeante à considérer les contes comme des objets culturels capables de soutenir la pensée et la vie émotionnelle. Si vous souhaitez soutenir Bruno Bettelheim, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.